Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Words, English words, full of echoes, memories.
Pour moi, la rencontre avec Dieu, c'est peut-être un acte d'écrire. Ça veut dire une solitude qui en rencontre une autre, c'est-à-dire une solitude en face d'une autre solitude. Dieu étant plus seul que soi.
Words, they've been on people's lips, in their houses, in the streets, in the fields, for so many centuries.
La vraie inspiratrice, c'est la mort, n'est-ce pas ? Si vous ne mettez pas votre peau sur la table, vous n'avez rien. Il faut payer.
Bonjour et bienvenue dans Encore Heureux. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre non pas d'un écrivain à proprement parler, mais d'un scientifique, l'un des plus grands, Charles Darwin. Cette année, plusieurs portraits seront consacrés à des scientifiques, et c'est heureux, ou à des philosophes, dont le premier de la liste pourrait bien être Arthur Schopenhauer. Mais revenons à Charles Darwin. Découvrons sa vie à travers la biographie écrite par Henri de Varigny, un biologiste et journaliste né en 1855. J'ai apporté une petite touche de modernité à ce récit, mais pas trop, de sorte que ce portrait conserve une légère coloration 19e. Charles Darwin est né en 1809 à Shrewsbury, en Angleterre. C'est l'un des plus grands penseurs de tous les temps et l'un des plus modestes. Il ne recherchait ni la gloire, ni les honneurs, et n'avait d'autre culte que celui de la science. Il descend d'une lignée d'hommes tout aussi remarquables. Son grand-père était scientifique et poète. Quant à son père, il était un médecin d'une grande compétence, malgré l'horreur de la vue du sang, qu'il conserva toujours et qu'il transmit d'ailleurs à son fils. La mère de Charles Darwin, elle, meurt en 1817. En 1825, le jeune Darwin est envoyé à Édimbourg pour étudier la médecine avec son frère Erasme. Il y reste 2 ans. Mais avoue-t-il, il n'y travaille guère, s'étant aperçu que son père lui laisserait une fortune suffisante pour vivre sans avoir besoin de se livrer à l'exercice de la médecine. Celle-ci l'intéresse peu. L'anatomie l'ennuie et la dissection le dégoûte. Les visites à l'hôpital l'intéressent davantage, mais sont pour lui une source d'émotions désagréables, les opérations surtout, dont certaines lui font fuir l'amphithéâtre. C'était avant la découverte du chloroforme, et la vue du sang avec les cris des patients l'impressionnait profondément. À Édimbourg, il se passionne pour les sciences naturelles, il assiste aux séances de la Royal Medical Society, il apprend à empailler, il suit des excursions géologiques. Au bout de 2 ans à Édimbourg, son père juge que c'en est assez, que le jeune homme manque de disposition pour les études médicales et qu'il ferait bien de se diriger dans une autre voie. Cette autre voie, c'est celle de l'Église. Charles Darwin est destiné à devenir clergyman. Et l'idée, à l'époque, ne lui déplaît pas. Il part faire ses humanités à Cambridge, où il arrive à la fin de 1828. Il y mène une vie de plaisir, loin du travail. Il dit lui-même qu'il y a perdu son temps, aussi complètement qu'à Shrewsbury ou à Édimbourg. Non seulement il ne travaille guère à Cambridge, d'où il sort pourtant avec le 10e rang en 1831, mais il y mène une vie assez dissipée, où la chasse, les courses et les dîners fins tiennent une place considérable. Darwin a toutefois des goûts plus relevés, et ce genre de vie ne peut lui convenir longtemps. À Cambridge, il va souvent au musée, il aime la musique, qui lui cause un véritable plaisir. Il parle souvent des frissons qui lui passent dans la colonne vertébrale quand il entend de la belle musique. Il aime aussi la poésie et la lecture légère, en particulier les romans qui se terminent bien. Mais ce qu'il adore par-dessus tout, c'est la chasse et la récolte des insectes. En 1831, il quitte Cambridge. La même année, une expédition scientifique s'organise à bord d'un navire, le Beagle. Darwin y embarque en tant que naturaliste, bien qu'il n'ait pas encore tous ses diplômes. Le Beagle est un très petit vaisseau de 242 tonnes, équipé en barque, portant 6 canons. On le classe dans la catégorie dite des cercueils, à cause de la fâcheuse tendance de cette sorte de navire à couler par gros temps. La mission du Beagle consistait à cartographier les côtes de Patagonie et de la Terre de Feu, du Chili, du Pérou et de quelques îles du Pacifique. Le voyage est pénible pour le jeune homme. Il souffre d'un mal de mer sévère. Et l'on a souvent attribué sa mauvaise santé future aux épreuves que ce mal fit subir à son organisme. Les amiraux, qui furent ses compagnons sur le Beagle, ont décrit les souffrances du malheureux naturaliste. Son travail était constamment interrompu. Darwin était vidé de toute énergie. Il s'étendait alors dans son hamac. Hormis ses problèmes de santé, la vie de Darwin s'écoule paisiblement sur le petit vaisseau. Ses relations avec les officiers sont excellentes. Tout le monde aime l'attrapeur de mouches. Un officier écrit « Je le revois en imagination avec autant de netteté que si j'avais encore été avec lui la semaine dernière sur le Beagle. Son sourire aimable et sa conversation ne peuvent s'oublier. » Jamais un mot n'a été prononcé contre lui, et je crois que c'est le seul dont ceci puisse être dit parmi ceux que j'ai connus, et c'est beaucoup, car les personnes enfermées ensemble pendant 5 ans sur un vaisseau sont exposées à s'agacer mutuellement. À la Terre de Feu, Darwin observe pour la première fois l'homme sauvage. Il écrit « Aucun spectacle ne peut être plus intéressant que celui de l'homme dans son état de sauvagerie primitif. Je n'oublierai jamais les hurlements avec lesquels nous reçut un groupe de sauvages lorsque nous pénétrâmes dans la baie de Bon Succès. Ils étaient assis sur une pointe de rocher, entourés d'une sombre forêt de hêtres. Ils jetaient leurs bras au-dessus de leur tête et leurs longs cheveux pendants les faisaient ressembler à des esprits troublés d'un autre monde. » De la Terre de Feu, le Beagle remonte la côte du Chili. Darwin est très malade vers cette époque. Il passe 6 semaines au lit à Valparaiso, atteint d'une maladie dont le diagnostic demeurera toujours obscur et qui l'affaiblit beaucoup. Il commence à souhaiter rentrer chez lui. Le retour s'effectuera par Sainte-Hélène à la fin 1836, après une absence de 5 ans. L'importance de ce voyage sur le Beagle a été capitale pour Darwin. Il l'a initié véritablement à l'observation, à la méthode, à la science. Et il paraît certain qu'il a été pour le développement de son esprit, de ses idées, l'événement capital de son existence. Il n'est alors plus question pour Darwin de devenir un homme d'église. Il abandonne totalement cette idée. Ses cahiers sont remplis de notes pleins d'échantillons à décrire, de faits à expliquer, et il se met au travail. Il écrit dans une de ses lettres « Je n'ai rien à désirer, si ce n'est une meilleure santé, afin de continuer les occupations auxquelles j'ai joyeusement décidé de consacrer ma vie. »
Vous êtes sur Radio B, vous écoutez « Encore heureux ».
En 1840, Darwin épouse sa cousine, Emma Wedgwood. Le couple se fixe à Londres, où il mène une vie retirée, évitant les réunions mondaines et toute perte de temps. Charles travaille beaucoup, mais sa santé est mauvaise et l'empêche d'en faire autant qu'il le voudrait. Il s'occupe de son volume sur les récifs de corail. Son « Voyage d'un naturaliste » est bien accueilli de ceux qui l'ont lu. Vers cette époque naît son premier enfant, il en aura 10, dont en vrai naturaliste, il fait aussitôt un sujet d'observation. Et ses notes sur le développement des expressions de ce jeune être deviennent le germe de son livre sur l'expression des émotions. Mais sa santé ne s'accommode pas de la vie de Londres. Et sa femme d'ailleurs ne se plaît plus non plus dans cette ville enfermée. Ils achètent une maison à la campagne, à Dône, un village tranquille et retiré, voisin de Londres. Le choix de Dône fut le résultat du désespoir plutôt que d'une préférence marquée. Fatigué d'avoir longtemps cherché en vain, il prit la première maison qui lui convenait à peu près. La maison est simple, si simple qu'il faut dès le début l'agrandir. Darwin compte bien cependant ne pas abandonner tout à fait la vie londonienne. « J'espère, dit-il, qu'en allant à Londres une fois tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines, j'entretiendrai mes relations scientifiques et mon zèle et que je ne deviendrai pas tout à fait une brute de province. » Mais en réalité, à mesure que le temps s'écoule, les visites à Londres deviennent de plus en plus rares en raison de sa santé et de son travail. C'est à Dône que s'écoulera désormais et que s'achèvera la vie de Darwin. une vie paisible, retirée, réglée d'avance heure par heure. L'emploi de la journée est très méthodique à Dawn. Darwin se lève tôt et fait une courte promenade. Il déjeune avant 8 heures. De 8 heures à 9 heures et demie, il travaille. Ensuite, il vient au salon pour le courrier qu'il lit. Après quoi, on lui fait une lecture à haute voix jusqu'à vers 10h30. C'est toujours une lecture de roman. De 10h30 à midi, il travaille encore, et c'est généralement dans sa vieillesse la fin du labeur quotidien. Il sort alors, le plus souvent avec son terrier blanc, poli. Il va visiter un champ qui a été spécialement arrangé en promenoir. C'est un champ étroit, mais allongé, planté de chênes et d'autres arbres, entouré d'une haie basse et d'où l'on découvre une jolie vue. Il s'arrête souvent pour observer les oiseaux et les autres bêtes, et son immobilité est telle qu'il arrive à de jeunes écureuils de lui grimper sur les jambes et le dos. Il se promène dans le jardin, examine les fleurs, pour lesquelles il éprouve un émerveillement artistique et une admiration de botaniste pour leur structure et leurs adaptations multiples. Darwin est de haute taille, mais de carrure moyenne, un peu voûtée dans sa vieillesse. Il est maigre. Son front élevé abrite des yeux bleu-gris enfoncés sous des sourcils touffus. Il porte une longue barbe, très fournie. Son vêtement est toujours sombre, de forme ample. Il porte un chapeau de paille ou de feutre mou, selon la saison, et pour sortir, il jette sur ses épaules un manteau court, sans manches, qu'à l'intérieur, il remplace par un plaid. Étant assez frileux, il porte sur ses chaussures d'intérieur des bottes de drap fourré. Au retour de la promenade, il prend son goûter. Son alimentation est simple et il n'est pas grand mangeur. Il a une passion pour les sucreries, passion malheureuse car elles lui sont défendues. Il promet souvent de ne pas en prendre, mais ne considère ses serments comme valables que s'ils ont été prononcés à haute voix. Après le goûter, il s'étend sur un divan du salon et lit le journal. Il s'occupe ensuite de sa correspondance, qu'il dicte le plus souvent, puis de ses affaires. Il tient ses comptes avec un soin méticuleux. Vers les 3 heures, il monte dans sa chambre, s'étend sur un divan, et tandis qu'il fume une cigarette, il écoute la lecture d'un roman. Il ne fume qu'au repos. Pendant qu'il travaille, il prise, une habitude qui date de Cambridge. Il dîne d'un repas léger, un œuf, une tranche de viande, après quoi une partie de tric-trac avec sa femme et une lecture scientifique occupe une partie de la soirée. La fin de celle-ci est consacrée à un peu de musique et de lecture. Comme son esprit est très ouvert, il lit un peu de tout. Il dit même avoir du plaisir à lire les articles de revues qu'il ne comprend pas. Une fois qu'une question a occupé son esprit, il s'y intéresse intensément et pour toujours. Il en suit les progrès à 20 ou 30 ans de distance. Enfin, vers 10 heures, la journée est finie. Darwin se couche. C'est la nuit qu'il souffre le plus de ces mots mystérieux. Mystérieux car il est difficile de se rendre compte de leur nature. Il semble que son estomac fût très délicat et peut-être souffrait-il aussi de la goutte. Toujours est-il qu'il passait souvent des nuits d'insomnie qui le fatiguaient pour la journée suivante et durant lesquelles il se créait des soucis sans nombre. Darwin est profondément aimé de ses enfants et il les aime tendrement. Jamais un mot d'impatience ni de colère. Il est toujours bon et affectueux. Avec ses invités, sa manière est charmante. Il a une façon de causer avec chacun d'eux tour à tour qui leur rend le séjour à Dawn particulièrement agréable. Il bégaye un peu quand sa pensée est hésitante et il cède de gestes. En société, son attitude est animée et gaie. Il aime plaisanter. Son rire est sonore et libre.
Vous êtes sur Radio B. Vous écoutez Encore Heureux.
Pendant près de 20 ans, Darwin retourne sa conception de l'évolution dans sa tête, lors de longues heures de marche sous les arbres de sa propriété. Sa théorie naît d'une intuition déjà dans l'air du temps. De nombreux chercheurs, dont le grand-père de Charles, Erasmus Darwin ou Wallace, avaient déjà conscience que les espèces ne traversent pas le temps de manière immuable et que l'humain fait partie de cette chaîne de l'évolution. Darwin est le premier à aller au bout de cette réflexion et à présenter sa théorie. En 1859, il publie la première édition de l'Origine des espèces au moyen de la sélection naturelle, ou la préservation des races favorisée dans la lutte pour la vie. 1250 exemplaires sont vendus en quelques jours. Il reçoit la médaille Copley, la plus haute des récompenses dont la Société royale dispose. C'est un grand honneur, écrit-il à ce propos. Mais à part plusieurs lettres affectueuses, ces choses m'importent peu. Cela montre toutefois que la sélection naturelle fait quelques progrès dans ce pays, et ceci me fait plaisir. D'autres œuvres suivent, dont la fertilisation des orchidées, les plantes grimpantes, la faculté du mouvement chez les plantes, la descendance de l'homme. Pour la majorité des gens, Darwin est un athée qui fait descendre l'homme du singe. Athée, Darwin ne l'est pourtant pas. Il n'est pas chrétien, mais il n'est pas athée. Sur ce point, son autobiographie et ses lettres sont formelles. Pendant son enfance et sa jeunesse, Darwin était un croyant sincère, acceptant tous les dogmes de l'Église d'Angleterre, au point même de provoquer l'hilarité de ses compagnons de voyage sur le Beagle. Puis ses idées changent. De chrétien, il devient déiste. Il sent la nécessité d'un créateur, en considérant les lois grandioses qu'il déchiffre. Mais il ne croit pas à une intervention occasionnelle de ce créateur. Il estime que les lois suivent toujours leur cours, sans intervention de celui qui les a formulées au départ. C'est le résultat des circonstances et non d'une volonté spéciale. Il m'a toujours paru, dit-il, écrivant à une dame qui lui fait part de ses inquiétudes, il m'a toujours paru plus satisfaisant de considérer l'immense quantité de douleurs et de souffrances qui existent dans ce monde comme le résultat inévitable de la suite naturelle des faits, c'est-à-dire des lois générales, plutôt que comme le résultat de l'intervention directe de Dieu, bien que ceci ne soit point logique, je le sais, quand il s'agit d'une divinité omnisciente. Il écrit aussi: je ne puis me persuader qu'un Dieu bienfaisant et tout-puissant ait créé les ichneumons, des animaux parasitaires vivant aux dépens des chenilles qu'ils détruisent, qu'il les ait créés donc délibérément, avec la volonté expresse qu'ils vivent dans les corps des chenilles, ni que les souris doivent servir de jouet aux chats. Pour Darwin, la divinité a formulé des lois qui vont leur chemin, sans jamais s'en détourner. À ce titre, il ne peut être considéré comme chrétien. Mais, dit-il, dans mes plus extrêmes fluctuations, je n'ai jamais été un athée, je n'ai jamais nié l'existence de Dieu. Je crois qu'en général, et surtout à mesure que je vieillis, l'agnosticisme représenterait le plus correctement l'état de mon esprit. Darwin meurt le 19 avril 1882 d'une maladie de cœur. Dans le dernier mois de sa vie, il se plaignait d'une grande faiblesse, d'éblouissement et de vertige. Il vit la mort venir et ne la craignit pas. Il rendit son dernier soupir au milieu des siens. Il est inhumé à l'abbaye de Westminster, entouré de ses pères et de ses disciples, non loin de Newton. Et c'est justice qu'une sépulture royale ait été ouverte à ces rois de la pensée. Terminons ce court portrait intime de Charles Darwin par un titre de Jarvis Must I Evolve, que l'on traduira par « Dois-je évoluer ?» Une question, ma foi, très darwinienne. À très bientôt sur Radio B. Must I evolve? Yes, 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 yes. Must I change? Yes, 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 yes. Must I develop? Yes, 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 yes. Can I stay the same? Must I grow up? Yes, 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 yes. Must I grow old? Yes, 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 yes. Must I join in? Yes, 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 yes. And do as I'm told? Yes, 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 yes. Must I mature? Yes, 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 yes. How come you're so sure? Yes, yes. Must I evolve? Yes, yes. Must I end? Oh,
a small band. Actually, more of a pop. But whatever it was, something went off.
Tides are forming. Someone is wearing hot pants in the morning.